franceinter.com.
On croit que la poésie, c'est de l'évasion, ce sont des jolis mots, ce sont des choses... Mais la poésie, c'est le creusement de la réalité, en somme. Et la réalité, c'est ça. C'est l'interrogation, oui. L'interrogation, c'est d'essayer de creuser au fond de soi qu'est-ce qui demeure quand l'apparence s'en va, et l'apparence s'en va vite. C'est un cheminement, c'est pas du tout une réponse. Je crois qu'il n'y a pas de réponse, je n'en vois pas. C'est une ouverture sur l'horizon, c'est un creusement de l'être, c'est un questionnement, c'est une interrogation sans réponse. Et de nouveau, je reviens à cette phrase de René Char, « Aller me suffit », je veux dire, on ne sait pas où on va exactement, on ne sait pas où on va, mais on sait qu'on va.
« Aller me suffit ». André Chédid était née sur les bords du Nil. Elle est morte hier, tout près de la Seine, qu'elle ne se lassait jamais de contempler de ses fenêtres. Dans ses veines coulaient, disait-elle, les eaux mêlées de ses deux fleuves, tout comme s'unissaient dans sa voix le Nord et le Sud, l'Orient et l'Occident. Poète avant tout, c'était aussi une grande dame, lumineuse et gaie. En 2003, à ce micro, elle nous avait donné la primeur de son dernier poème, intitulé justement « Liberté ». Aujourd'hui, il nous parlera encore d'elle et aussi de son pays natal.
« Liberté. Je relève d'un pays où personne ne règne, traversé de crevasses et d'oiseaux. La main trace l'avenir, le cœur ses extrêmes. Un appel lui donne voile, une grimace le ternit. Je relève d'un pays sans fanion, sans amarre. La mort a ses sentences, comme ailleurs. Demain, son étendue, le printemps, ses preuves. Il s'y trouve partout d'endroits où se tenir.
C'est une sorte de ruban là, qui se déroule et qui a sa vie propre et qui est extérieure en quelque sorte au monde qu'elle traverse, cette rivière. Parce qu'elle traverse des villes, des villages, des pays extrêmement différents, encore une fois, et presque étrangère à ce qui l'entoure. Et tous ces signes sauvages, tous ces... C'est un monde extraordinaire. Ces îles qui se créent, je ne sais pas moi, comme à la création du monde, l'apparition du Nil, c'est quand même un privilège de voir une telle chose. Et c'est un monde, à mon avis, absolument inconnu et sauvage. Et vous êtes là sur une route aquatique qui vraiment a sa vie propre, indépendante, une sorte même de corps étranger. Et vous avez l'impression parfois de vous trouver en Louisiane, avec ses bayous, avec ses bras morts en effet. Et pourtant, cette Marne a été mutilée, rectifiée, domestiquée.
L'humeur vagabonde sur France Inter.
Existe-t-il quelqu'un qui serait réellement indifférent au bord d'eau, aux rivières, aux fleuves, aux lacs ? Sensation très différente de celle suscitée par le face-à-face avec l'océan, la contemplation hypnotique de l'eau courante, la promenade rêveuse le long d'un canal, ou encore mieux, la lente flânerie en bateau sur une voie fluviale, offre à qui se laisse tenter une toute autre notion de l'espace et du temps. Tout à coup, la vie des hommes et la marche du monde redeviennent envisageables, et même le passage des heures n'est plus aussi cruel. D'ailleurs, Gérard Rondeau a mis 3 ans pour éclaircir sa vieille mais épisodique relation avec la rivière Marne. Originaire de Châlons, il a déjà beaucoup travaillé sur les paysages de Champagne, ceux qui conservent l'empreinte de la folie meurtrière des hommes, comme ceux qui ont nourri le souffle des artistes. Dorénavant installé à Chassin, il commence par y aller à pied, depuis Paris, en compagnie de son ami Jean-Paul Kaufmann. Puis ils récidiveront en direction des sources de la Marne et de cette ligne de partage des eaux qui l'obsède. Et comme cela ne lui semble pas encore complet, il va embarquer sur une péniche, transformée en studio pour photographier et filmer de sa source à sa jonction avec la Seine, tous ceux qui voudront bien lui en parler. La grande rivière Marne qui raconte son aventure vient de paraître aux éditions La Nuée Bleue. Et Gérard Rondeau est ce soir l'invité de l'Humeur Vagabonde.
Apprenant que les gendarmes recherchaient un vagabond, et une brave dame m'a caché sous son jupon. Quelquefois, je l'admets, j'ai couché sous un pont, mais je n'avais encore jamais logé sous un jupon. Comme sous ce jupon, il faisait doux, il faisait bon. Comme sous ce jupon, il faisait noir comme du charbon. Comme il faisait nuit, je me suis endormi, je me suis endormi comme si j'étais dans un bon lit. Ma nuit s'est conclue par un réveil au clair de lune, en ne sachant plus dans quel pays, dans quelle commune. J'ai couché, je l'admets, parfois au clair de lune, mais je ne l'avais encore jamais vu de ce volume. Je suis dans le néant, je ne reconnais pas la chambre. Ce parfum d'océan mêlé à une pointe d'ambre. J'ai dormi, je l'admets, parfois dans un fossé. J'ai dormi, je l'admets, quelquefois sans me déchausser. Ai-je fait relâche chez les Bédouins en Arabie? Ai-je fait relâche chez les Apaches sous un tipi? Parfois j'ai campé, j'ai dormi sur des canapés. J'ai dormi, je l'admets, quelquefois sans me dessaper. Dans ce campement de fortune, j'ai posé un collet, j'ai vu un lapin dans les dunes. Mes autres résidences ne valaient pas un radis. Et de toute évidence, ici je suis au paradis.
La banlieue m'intéresse moins, ça c'est vrai, mais ce qui m'a intéressé en revanche, c'est où s'arrête la ville, où s'arrête la ville et où commence véritablement aux portes de Paris la campagne. Il y a un moment là où c'est très net, là, et les grands ensembles s'arrêtent là, de manière brusque et... moi, j'ai identifié cela du côté de Lagny, du côté d'Anmar. J'ai rencontré une France qui ne va jamais à Paris et qui s'en trouve très bien. C'est bizarre, j'ai rencontré dans la Haute-Marne quelqu'un qui m'a dit cette chose. Vous voyez, c'est beau la Haute-Marne, c'est loin de tout, avec ses forêts, ses champignons, cette belle rivière. Et j'ai mon jardin potager, nous sommes solidaires, j'appartiens, monsieur, au Carmon de Heureux. Me disait-il.
Bonsoir Gérard Rondeau.
Bonsoir.
Cette aventure a commencé avec Jean-Paul Kaufmann, que l'on vient d'entendre, comme une balade entre deux copains pour partir comme ça vers le nouvel endroit où vous habitez. Et donc une promenade à pied qui finalement est devenue une aventure. Jean-Paul Kaufmann est en train de terminer un livre. Vous avez ce livre, vous avez des photos, vous avez un film. Et j'ai l'impression que cette histoire, elle n'est pas prête de vous lâcher. Qu'est-ce qui s'est passé ?
Vous savez, toutes les histoires qu'on commence, un peu comme ça, sont généralement ne se terminent jamais. Mais non, moi, je pense que quand on arrive quelque part, on a envie de comprendre son paysage. Et c'est vrai qu'arriver sur les bords de Marne, dans cette vallée de la Marne, entre Dormans et entre Épernay et Château-Thierry, j'avais envie de comprendre parce que, voilà, on a tous les matins, quand on se lève, le coteau, les coteaux qui descendent vers la rivière. On a envie de savoir plus loin, même si on connaît la géographie. Mais je pense qu'il n'y a qu'un moyen de le faire, très souvent, c'est à pied. Et c'est vrai qu'un soir de dîner chez Jean-Paul Kaufmann, un peu tard dans la soirée, j'ai dit, voilà, je vais faire Paris. Et Jean-Paul diverge un peu sur cette phrase, et il m'a dit, je t'accompagne. Alors peut-être que je lui ai demandé si ça lui ferait plaisir, mais en tous les cas, il a dit oui tout de suite. Et cette marche était, pour moi, à l'époque, ce n'était pas du tout le début d'un travail, c'était simplement venir, comprendre, ça a duré 4 jours et demi, il y a 120 kilomètres pour venir jusque chez moi. Et ça nous a donné envie de continuer, et nous avons fait 2 autres voyages jusqu'aux sources de la Marne, qui ont été pour nous une découverte. C'est comme si d'un seul coup, alors après, il faut imaginer ces 3 voyages. Moi, je ne fais pas de marche particulièrement, je ne fais pas de randonnée, je cours un peu le monde entier, mais je n'ai pas l'habitude de faire des marches à pied comme ça. Et là, mais je l'ai fait aussi sur d'autres travaux, comme vous l'évoquiez, on a l'impression d'arriver au bout du monde. Et cette arrivée aux sources, alors c'était pendant le mois de juin, il faisait extrêmement doux et à la fois il pleuvait. La végétation était superbe, on se serait cru sous les tropiques. J'ai habité longtemps, deux années sous les tropiques, et d'un seul coup, c'était les mêmes, presque les mêmes odeurs de la végétation, de la terre. Et là, quand on descend, il y a un énorme rocher, une grande végétation, de la mousse, des rochers, une grotte, et on a l'impression d'en être presque les découvreurs.
Ah, mais les photos des sources de la Marne, ouais. Parce qu'il y en a 2, c'est ça, il y a plein d'histoires dans votre livre, en plus, Gérard Rondeau. Il y a 2 sources, une officielle et une réelle. C'est d'une beauté absolument extraordinaire, et surtout, il y a une légende qui est attachée à ce lieu. C'est une légende gauloise, en fait. Et du coup, j'ai trouvé l'origine du prénom Éponine, qui est dans Victor Hugo, dans Les Misérables. Ouais. Je me disais, mais d'où vient ce prénom? Il vient de la compagne
de Sabinus
oui. Ils auraient passé tous les 2 9 ans dans cette grotte.
Alors, tout ça n'est que légende, c'est comme le cas des 2 sources. Alors, moi, j'ai écouté les gens, j'ai beaucoup parlé, mais je ne sais pas laquelle est la source, et en fait, peu importe. Mais cette eau qui, d'un seul coup, ce mince filet d'eau que nous avons bu avec beaucoup de... dans le silence autour de cette cathédrale de végétation, c'est très émouvant. Je veux dire, quand on connaît une rivière depuis toujours, qu'on l'a vue passer, parce que je suis né en Champagne, j'y vis, d'un seul coup, on est là, à la source, et on ne peut pas imaginer avant que cette source sera aussi belle. Et j'invite et je sais que depuis ce livre, beaucoup de gens vont visiter la source.
Oui, ça donne vraiment envie, il faut dire, parce que, bon, évidemment, vous êtes photographe, donc ce livre est plein de photos drôles, surprenantes, attendrissante, magnifique. C'est un paysage superbe. Parfois, c'est moins superbe parce que ça traverse aussi des zones industrielles qui sont peut-être moins photogéniques. Mais en tout cas, ça donne envie. Et puis, vous avez filmé, on va en parler, Gérard Rondeau. On va écouter justement, vous parliez des sources de la Marne. On va écouter ce petit extrait de votre film, Les sources de la Marne, et ensuite d'autres rencontres.
Et elle est délicieuse. Nous ne la mettons pas en bouteille. C'est simplement parce qu'on veut la garder pour nous. N'est-ce pas? Mais elle s'échappe, elle va en région parisienne. Où malheureusement, au risque de me répéter, elle perd son nom, elle devient la Seine. Bref, nous en resterons là.
Coucou! Coucou les enfants! Coucou les enfants!
C'était un matin, je m'étais levée relativement tôt pour aller faire mon jogging. Et à 8h30 du matin, c'était en novembre, j'ai trouvé en fait un cadavre dans la Marne. Donc c'était un cinquantenaire qui s'était suicidé. Donc ça refroidit. Ouais.
Alors, Gérard Rando, il faut dire que ce qui est parti comme une marche entre deux copains et qui est devenu une poursuite d'une idée dont nous allons parler et de rencontres, ça s'est transformé en voyage en péniche sur la Marne. Alors, qu'est-ce qui s'est passé entre cette envie de marcher avec un ami décidé un soir de juillet autour d'une table jusqu'à 3 ans après ce voyage en péniche avec un studio photo, avec une caméra qui tourne, avec un livre au bout du compte. Comment ça s'est fait, ça?
Écoutez, c'est très simple. J'ai toujours un peu l'habitude d'aller au bout de certaines choses. Et à la fin, donc nous avons fait ce voyage à pied en 3 temps. Et à la fin, j'ai dit à Jean-Paul, je vais travailler sur la Marne. Tout ce voyage, pour moi, c'est un de mes plus beaux voyages. Pourtant, j'ai beaucoup voyagé, mais ça fait partie vraiment des plus beaux voyages. Nous avons croisé très peu de monde, et à la fois, c'était toujours à chaque détour, à chaque écluse, source de rencontres avec la nature, avec le canal qui flirte avec la rivière, la végétation, etc. Les paysages urbains aussi, que moi, je vous dis que c'est pas photogénique, mais c'est aussi très, très photogénique. Et j'ai eu envie de continuer. Donc, j'ai refait toute la Marne à pied, en RER, à vélo, en voiture, pendant une année. Et j'ai monté ensuite une exposition. Mais déjà, j'avais pris beaucoup de notes. Et dans cette exposition, ça donnait, vous savez, c'est comme une commode à tiroir. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'on s'arrête quelque part, si on commence à ouvrir un tiroir, on a envie d'en ouvrir un autre. Et d'un seul coup, tout s'enchaîne. Et dans cette exposition qui était à la fois, je me souviens d'un grand mur, c'était au musée des Beaux-Arts de Châlons-sur-Marne, anciennement, maintenant Châlons-en-Champagne. J'avais un très grand mur où j'avais fait quelque chose de très graphique et photographique, comme une eau qui s'écoule avec beaucoup de rigueur. Et de l'autre côté, j'avais évoqué avec ces légendes autour des photographies tout ce qui touchait au patrimoine, à la littérature, aussi à la végétation. C'est-à-dire qu'à chaque fois, moi, je pense que l'aventure est toujours à nos portes et que si on commence à avoir la curiosité, c'est une démarche, c'est une quête sans fin. Donc j'ai fait ça, j'ai fait cette exposition. Il y avait quand même un pan que je n'avais pas réussi à transformer, c'était descendre toute cette Marne, alors au début par le canal, mais en bateau. Et j'ai passé un accord avec quelqu'un qui a une vieille péniche de 1916. Et cette péniche stationnaire, enfin, elle est à Mareuil-sur-Aille, en pleine Champagne. Elle s'appelle d'Argilet d'eau et elle sert surtout comme chambre d'hôte. Elle n'avait pas circulé depuis 5 années. Et son capitaine, Francis Dumelier, a accepté que nous passions un accord et que voilà, je prenne cette péniche pendant 45 jours. Donc nous avons pris un autre pilote, parce que sur la Marne, il faut 2 pilotes. J'ai pris un équipage. Et surtout, c'est cette idée. Alors là, j'ai bien sûr fait des photographies, mais très peu. C'est-à-dire que je faisais quelques photographies systématiques. Mais c'est surtout que je voulais maintenant m'attaquer à la mémoire de cette Marne. J'avais beaucoup de notes, encore une fois, toute une bibliothèque. J'avais rempli ma cabine d'une petite bibliothèque provisoire, à la fois avec des livres sur le voyage. On pouvait avoir Sylvain Tesson, mais on pouvait avoir aussi des écrits, même des monographies de village, y compris sur la guerre, enfin voilà. Et j'ai fait dessiner deux cadres métalliques. Alors, je donne juste les dimensions de 80 cm par 80 et l'autre de 2 mètres sur 2. Et je me suis dit, ce cadre, je vais le mettre sur le pont du bateau. Et je pense que je vais en faire quelque chose pour mes entretiens. Les 2 premiers jours, je ne m'en suis pas servi. C'est-à-dire que, bon, tellement de soucis aussi à organiser parce que je vous passe les détails sur l'organisation. C'est-à-dire qu'on s'arrête à une écluse, je montais quelqu'un et le temps d'un bief ou de 2 biefs, je faisais l'entretien avec cette péniche qui avançait, alors soit sur le canal dans la partie, dans la haute Marne, enfin dans la Marne, dans la partie où la Marne n'est pas navigable, et ensuite sur la Marne. Et les gens étaient derrière le cadre, donc juste en bordure, il n'y avait aucune sécurité. Derrière, c'était les paysages, les coteaux qui étaient juste derrière. J'avais un fond absolument formidable. Et j'étais, moi, de l'autre côté de ce cadre, avec une caméra. Il me faisait, je les questionnais face à la caméra à travers le cadre. Et je dois dire que ça a été ce cadre que j'ai apprivoisé dans les 2-3 premiers jours a été, je crois, vraiment, vraiment
c'est
la
une belle
meilleure
trouvaille.
Idée.
Bah, c'est une belle trouvaille parce qu'effectivement, les gens, d'abord, s'y placent comme ils veulent. Alors, on a l'impression, on comprend bien, c'est le cadre de la photo. Mais du coup, ça leur donne une contenance et chacun raconte son histoire. Certains racontent l'histoire du pays, d'autres leurs petites histoires à eux, pourquoi ils aiment cette rivière. Et alors, justement, on découvre que cette rivière de Marne est bordée de quantités de lieux qu'on ignore parce qu'on est nul, les Français sont nuls en géographie. Il y a beaucoup de choses, notamment, il y a des îles. Hein, des îles, c'est pas sous les tropiques, vous parliez des tropiques tout à l'heure. On va justement écouter quelqu'un qui parle de l'île des loups et en hiver, prise par les glaces.
Quand les mariniers passent, par exemple, c'est très drôle. Si vous êtes sur la terre ferme, en face, on ne vous dira pas bonjour. Mais si vous êtes sur l'île, sur le ponton et que vous les regardez passer, vous aurez droit à un grand signe de la main. Parce qu'il y a une assimilation au peuple de l'eau. Alors l'hiver, il y a plein d'aventures qui peuvent arriver. C'est pas la Loire, malgré tout, qui reste le dernier fleuve sauvage. Non, la Marne, elle est un petit peu plus domptée. Elle est entre le fleuve sauvage et le canal. Alors elle a ses grosses colères. On entend un train qui passe. La Marne a ses grosses colères. Alors ses grosses colères, c'est quand il a beaucoup plu et puis effectivement il y a la crue. Alors si la crue est importante, on est obligé d'aller jusqu'au bateau dans des grosses bottes en caoutchouc. Il faut marcher dans l'eau. Et puis finalement, ce qu'elle puisse nous faire de plus méchant, c'est quand même pas grand-chose, c'est de geler. Alors quand elle gèle, les bateaux sont pris dans la glace. Nous, on est enfermés dans l'île. On peut plus sortir. On a vu évidemment les bords qui commençaient à geler, alors on a fait un plein de provisions, et puis on n'a plus qu'à annuler tous les rendez-vous en expliquant qu'on est pris dans les glaces, à rester enfermé chez soi, à regarder l'hiver par la fenêtre et à attendre le dégel, c'est merveilleux.
C'était un photographe, Patrice Barre, qui témoignait ainsi dans les Nuits magnétiques sur France Culture en 1989. Et c'est vrai qu'en tournant les pages de ce livre, Gérard Rondeau, on découvre à la fois la France d'aujourd'hui, bon, elle est là, les gens sont bien ancrés dans leur réalité, ils parlent de ce qui se passe aujourd'hui, des emplois, des fabriques, des celles qui ferment, celles qui ouvrent. Et puis il y a aussi un incroyable voyage dans notre mémoire, celle qu'on n'a pas. Au fond, c'est ce voyage en péniche sur la Marne, il nous raconte une histoire qui est la nôtre, qui est l'histoire de ce pays qu'on a tendance à oublier, c'est-à-dire le lien entre ce qu'on fait aujourd'hui. Mais on ne le fait pas par hasard, on le fait parce que c'est lié à telle histoire, à telle entreprise, à telle histoire des hommes qui bordent ce chemin navigable. Vous étiez conscient avant que vous alliez raconter ça ou c'est en découvrant l'objet terminé ?
Franchement, j'étais conscient de toutes les possibilités qu'offrait la Marne. J'avais, encore une fois, je m'étais beaucoup documenté, j'avais beaucoup lu et j'avais envie de toucher à tout. C'est-à-dire que ce livre, pour moi, est une espèce d'aboutissement. C'est comme si c'était le grand livre de la Marne. C'est-à-dire on y pioche, on y va chercher absolument ce qu'on souhaite y trouver. Je pense qu'on ne le lit pas dans la continuité, il est très riche. Et je voulais aborder à la fois les problèmes. Alors, évidemment, c'est lié à l'histoire. D'abord, quand on vous parle de la formation de la Marne, et ça, quand on commence en Haute-Marne, sur le plateau de Langres, on vous en parle de manière formidable. Et pour moi, la plus grande surprise, c'est quand on arrive dans une darse du port de Bonneuil, donc un bras mort de la Marne, où d'un seul coup, quelqu'un vous redit exactement la même chose. C'est comme le premier jour et le dernier jour, c'est comme si la boucle était bouclée. Alors, je m'attendais à tout ça parce que je n'ai rien laissé au hasard et je voulais avoir des gens précis, quelqu'un qui me parle, je ne sais pas, de Pierre-Louis, la naissance de Pierre-Louis et de l'érotisme chez lui dans ce village de Champagne. Je voulais quelqu'un qui me parle naturellement de la métallurgie, des écrevisses à pattes rouges. Mais très sérieusement, je pense que j'ai été... C'est maintenant au-delà de toutes mes espérances. C'est-à-dire je ne pensais jamais... j'ai fait plus de 200 entretiens sur le bateau. Je ne pensais jamais que tous ces entretiens seraient aussi passionnants et surtout que tout se remplirait comme un puzzle. Moi, j'avais demandé à rencontrer des maires de village avant. En leur expliquant, je leur donnais une liste de choses que je voulais. Alors, encore une fois, on parle du pape Urbain II et aussi de Claude-Nicolas Ledoux qui est né, les Salines d'Arc-et-Senans, qui est né sur les bords de Marne. Bon, on parle de Diderot, de Bossuet. Mais Je ne pensais pas, d'abord, alors j'ai fait venir bien sûr des gens que je connais, des amis, des spécialistes, Jean-Paul Kaufmann est venu sur le bateau, Frédéric Vitoux est venu parler de La Fontaine ou de Bossuet, etc. Mais j'ai fait aussi monter beaucoup d'éclusiers, de gens de rencontre, des gens de la police, de l'environnement. Et d'un seul coup, d'abord, ce cadre, pour y revenir, vous disiez que les gens s'installaient dans le cadre, ce cadre a créé une intimité formidable. C'est-à-dire que même, je me souviens de l'entretien avec Henri Gaudin, grand architecte, Charles Etil, musée Guimet, qui est monté sur le bateau. Il y avait 15 personnes sur le bateau autour. Eh bien, c'est comme si nous étions tous les deux. Il était là dans ce cadre. Et ce cadre donnait une intimité, donnait... C'est pas du tout la même chose que si les... D'abord, on a l'impression d'un vrai travelling. Vous savez, ce livre est tiré un peu du film. C'est le plus grand travelling de l'histoire de la vidéo. C'est 525 km sans bouger le plan. C'est quand même formidable. Pour moi, toutes ces rencontres, ça a été... C'est aussi pour ça que j'ai voulu faire un livre. Je ne pensais pas faire un livre aussi vite et j'avais d'autres choses à faire. Et je me suis dit peut-être, mais devant, c'est comme si on était un peu dépositaire de cette mémoire. Et cette Marne à laquelle beaucoup trop de gens encore ou de communes tournent le dos, elle a été dans dans toutes nos enfances, pour ceux qui n'habitaient pas très loin de la rivière, ça a été une vraie source de plaisir. Donc, oui, ça a été quelque chose d'exemplaire qu'il fallait transformer très vite.
Si tous les livres de géographie et d'histoire pouvaient être comme celui-là. Oh, wow, oh.
Recipe to make my life more comfortable with you. And if I could only make you understand, you gotta calm down, baby. Would you not rather feel the taste of love hand in hand and no violence? Instead, you really make me feel like there's a red hot chill, a red hot chili pepper down my throat.
Every day, throw all of the way, you and me, hey, yeah.
In my brain, I feel it every day. I feel it pumping in my top hat. So if you want me, babe, I understand today. Well, you can't carry on like that. But I'll be tainted in the heart when good things never last. Well, I bet you know the answer. Are we too hot? Are we too cold? Too young? Are we too old? Can't piece together.
Est-ce que tu as une poésie sur l'eau ?
Non, mais j'ai une poésie sur l'autre.
Oh, bah vas-y alors.
L'autre. Celui d'en face ou d'à côté, qui parle une autre langue, qui a une autre couleur, et même une autre odeur si on cherche bien.
Gérard Rondeau, il y avait les gens attendus et puis il y avait les gens inattendus dont fait partie ce petit Léo qui est venu vous réciter la poésie du jour, l'autre.
Bah, c'était très drôle parce que l'autre, je n'attendais pas cela, mais ce jeu de mots, j'ai pas de poésie sur l'eau, mais sur l'autre, c'était vraiment du spontané. Mais alors, par exemple, dans le livre, il côtoie un vieux monsieur qui nous raconte toute l'histoire de son village depuis l'arrivée des protestants à Dormans qui brûlent le pont et toute l'histoire des guerres de religion. Ce que j'ai aimé, c'est croiser absolument toutes ces histoires et tous ces destins. Et j'ai été particulièrement frappé dans l'envie de raconter. Alors, chacun d'un seul coup, je suis sûr qu'ils ne l'ont pas très souvent, même pas raconté à leurs enfants. C'est-à-dire raconter la guerre, la Jeep de Patton qui est d'un seul coup dans les marais autour de la Marne entre Châlons et Épernay. Et puis quelqu'un d'autre passe après en disant non, mais il s'est trompé. C'était une jument, mais c'était pas ça. C'était pas tout à fait les mêmes personnes. Et moi, je recevais, et à la fois d'un seul coup, c'était, comme vous le disiez, une leçon de géographie, d'histoire, quelque chose d'ouvert sur les temps, sur tous les temps.
Et ben on oui, j'ai comme ça appris grâce à vous que les mammouths et les aurochs traversaient à gué à Maison-Alfort.
À Maison-Alfort, hein? Ben voilà, c'est-à-dire que...
Le croirait-on aujourd'hui?
À chaque fois que vous passerez à Maison-Alfort, ben,
ça,
vous y
ça va changer mon
cas,
regard.
Moi, j'y pense. Moi,
c'est
j'y
vrai,
pense.
C'est vrai.
Par exemple, la ville de Saint-Dizier, traversée par la Marne, où il y a cette usine Miko, qu'on a tous mangé des Esquimaux au cinéma qui venaient de chez Miko, mais aussi toute la métallurgie. On en entend parler, la métallurgie, jusque Paris. C'est-à-dire, tout le monde vous dit, ah, mais au fait, il y avait ces trains de Brel, tous ces radeaux qui apportaient toute la production de la Haute-Marne et qui descendaient vers Paris. Mais y compris des très petits villages où ils disaient, mais là, c'était bouleversé aussi par ces trains de Brel qui arrivaient, etc., et qui vendaient d'ailleurs les radeaux eux-mêmes à Paris. Le Champagne, il y a quelqu'un qui nous raconte les révoltes de vignerons champenois sur les fraudes en 1911, le vin qui venait de Loire, et d'un seul coup, la personne dit, c'est la rivière de la discorde. C'est-à-dire, chacun a une idée, à un moment, de la rivière. Et cette rivière, encore une fois, où il y a tant de témoignages, en avançant, Jean-Paul Kaufmann disait aussitôt Lagny sauvage, mais c'est extrêmement sauvage. Entre Lagny et Meaux, vous passez dans des endroits où vous semblez être au bout du monde. Entre Châlons sur Marne, Châlons en Champagne et Vitry-le-François, c'est une Marne extrêmement sauvage. Je veux dire, il faut, vous êtes presque en train de pousser la végétation pour passer. Elle est très dangereuse. Elle n'est pas navigable à cet endroit. La Marne raconte elle-même et chaque personne qui montait, d'un seul coup, apportait les témoignages, y compris les cuisiniers, les pêcheurs, les mariniers, etc.
Alors, c'est d'autant plus intéressant que pour beaucoup de Français, si on dit la Marne, on va vous répondre évidemment la bataille de la Marne, la Grande Guerre. Et d'ailleurs, il y a dans ce livre aussi les souvenirs de cette terre labourée par les hommes, par la folie des hommes. Il y a aussi une petite histoire d'eau que j'ai recueillie pour vous. C'est une histoire de la guerre de 14 qu'on a pu entendre en 2002 sur France Culture. C'est un village disparu qui s'appelle Tahur.
Ici, on est dans le village. Village de Tahur, avec derrière nous, il y a les sources de la Dormoise, où il y a eu quand même des combats relativement terribles. Et là, j'ai mon grand-père qui avait une anecdote en me disant que lui avait été une corvée d'eau. Corvée d'eau, mauvaise condition météo. Et il me dit, on s'est trouvé dans le brouillard, on s'est trouvé nez à nez avec une corvée d'eau allemande. Et il dit, on est passé à 40 cm l'un de l'autre sans se voir. Il dit, tout le monde a tourné la tête à droite. Il dit, on est passé, l'air de rien. Il dit, nous, on était 4 ou 5. Eux, ils étaient 4 ou 5 avec les gamelles d'eau. Tout le monde avait besoin d'eau. Bon, c'était la paix. On voit des arbres qui ont repoussé. Vous voyez encore des arbres fruitiers. C'est un pommier, ou je pense que c'est un pommier de l'époque qui est toujours là. C'est tout. Les arbres ont commencé à reprendre le dessus. Ce qui à l'époque était de la terre qui était vraiment inculte où plus rien ne poussait. Vous voyez qu'il commence à y avoir quelque chose qui repousse 90 ans plus tard.
Gérard Rondeau, alors maintenant vous allez me dire la vérité, est-ce qu'en fait la Seine devrait s'appeler la Marne. Parce qu'il y en a beaucoup qui vous ont dit là ça.
Écoutez,
hein, que les Parisiens avaient pris la Marne, mais qu'en fait, c'était...
Moi, je suis un ardent défenseur, naturellement, maintenant de la Marne. Je ne peux pas faire autrement.
Paris
j'ai beaucoup
Marne.
De respect pour la Seine, mais bon, je ne peux pas m'empêcher, en étant à Paris et en étant aussi sur la Seine, de penser à la Marne. Il y a quand même... non, c'est... Alors là aussi, il y a tout un débat qui prête à sourire. Mais bien sûr qu'en tous les cas, la Seine ne serait rien sans nous, sans la Marne. Alors je voudrais juste revenir une seconde sur une anecdote sur 1914. J'ai rencontré... alors évidemment, on m'a parlé de la destruction des ponts, on m'a raconté beaucoup en détail les deux rives, etc. Et puis un jour... j'ai quelqu'un qui vient, un monsieur de 70 ans, et qui vient avec une arme comme ça. Il me dit c'est un coupe-coupe. C'est un coupe-coupe laissé par les tirailleurs sénégalais. Alors, j'ai dit, ah bon, mais... Je lui dis, mais pourquoi vous me l'apportez ? Eh bien, il me dit, ce coupe-coupe a maintenant une histoire. Il a servi d'instrument pour aller couper les betteraves dans toute la région. C'est-à-dire que le coupe-coupe sénégalais était entré dans les arts et traditions populaires français ou en tous les cas marnais ou champenois. C'est quand même... Et tout ça tout au long de la rivière.
Alors, il y a aussi quelque chose qu'on s'en rend compte en voyant les images filmées. C'est que au fond, les banlieues, lorsque la rivière traverse les zones, plus on se rapproche de Paris, traverse ces fameuses banlieues, donc beaucoup sont les banlieues rouges, en fait, on tourne le dos à la rivière à ce moment-là. Il n'y a pas de vie autour du fleuve.
Alors, vous avez raison et vous avez tort.
Ah,
il y a d'autres villes. Par exemple, je trouve que Château-Thierry, qui est traversé par la rivière, je trouve qu'on s'en occupe assez peu. Alors peut-être, je demande aux gens de Château-Thierry de m'excuser si c'est faux, mais j'ai l'impression qu'elle représente plutôt un handicap, ce pont avec un bouchon toujours. Bon. Mais il y a des villes qui savent s'approprier les rivières, la rivière, et qui c'est un plaisir d'y passer. Et je pense, entre autres, quand vous arrivez à Lagny, c'est une ville qui vit complètement. Vous avez le week-end à Lagny. Moi, je n'ai pas l'habitude d'aller à Lagny. Je suis à Paris ou je suis ailleurs. Et Lagny, c'est une ville qui vit avec sa rivière de manière formidable. Le samedi, le dimanche, la rivière, la Marne, est pleine d'embarcations. Quand nous sommes passés en péniche, il y avait les porte-voix, ils nous encourageaient. Enfin, c'était extrêmement drôle. Nogent, c'est la même chose. Nogent, c'est une activité absolument intense. Et la rivière est très belle, et au contraire, ces villes, Nogent, Joinville, Lagny, se tournent complètement vers la rivière. Meaux, je trouve, je trouve que ça a beaucoup changé depuis quelques années, et ils ont compris que la rivière était, vous savez, une vraie halte nautique. D'un seul coup, ça transforme une ville, ça donne surtout des perspectives quand on est en bas. La manière de regarder, alors si on est à Meaux, de regarder la cathédrale, etc., ça change complètement de point de vue, et c'est très important. Châlons en Champagne, si vous passez à Châlons en Champagne, arrêtez-vous, prenez il y a deux bras qui s'appellent le Meaux et le Nau. Arrêtez-vous pendant, je crois que ça va du printemps à l'automne, et vous pouvez faire un tour en barque sous Châlons. Et bien, je vous assure que c'est absolument magnifique. Et le mieux, c'est encore d'y aller la nuit. Ben, écoutez, vous êtes complètement ailleurs. Alors oui, il y a des endroits complètement... si vous descendez quand le canal borde vers Chelles, la fin de l'hôpital psychiatrique de Ville-Évrard, c'est un peu abandonné. Il y a sous les ponts, quelquefois, c'est une vraie... je veux dire, c'est pas très fréquentable. Et à la fois, très souvent, les gens reprennent. Ce que je déplore un peu, c'est que je pense que vous allez d'Épernay à Château-Thierry, il y a peut-être un lieu où on peut prendre un verre sur les bords de Marne, mais ailleurs, nulle part. Et les seuls qui comprennent quelquefois le plaisir à vivre ou à venir passer quelque temps auprès de cette rivière, ben, sont des gens qui viennent justement de la banlieue ou de Seine-et-Marne et qui remontent un peu la Marne et qui trouvent des coins absolument tranquilles le week-end. Ils ont bien raison. C'est un loisir gratuit. Vous pouvez y être comme vous voulez. C'est formidable.
J'ai quelques vis, mais je suis pisse, bien plus clean que le palais de la justice. Si je fais des vieux os, faut pas que ça soit à l'hospice. Profite, même si c'est que ça glisse, avec le vent comme complice. Avec le vent comme complice. avec le vent comme complice, avec le vent comme complice, avec le vent comme complice. Mesdemoiselles, mesdames, messieurs, c'est Johnny fout le feu. Johnny s'en fout, Johnny veut sa part de soleil. Comme vous, l'animal à deux pattes qui pense et marche debout. J'ai des idées étranges et quelques rêves un peu fous. J'aimerais causer avec les animaux comme je le fais avec vous. Faire de la gratte comme Django, Jimmy et Paco. Pour ça je rêve tôt dès le matin, j'y crois fort avant le petit-déj. Paraît qu'on a rien sans rien, si le savoir sans privilège. J'en sais trop rien, puis je donne ma langue au chat cousin. Bien que je sois chelou, un peu vilain, pas voyou, même pas méchant, pour dessous tout, juste innocent comme vous, même si comme vous. Parfois j'ai un peu de mal à aller jusqu'au bout, j'avoue. Johnny, plus d'une fois j'ai pris mes jambes à mon cou, c'est fou. Je suis plus fort pour ramasser coups, donner des coups, et à force d'en prendre Johnny, vous voyez flou. J'ai quelques vices, mais je suis pisse, bien plus clean que le palais de la justice. Si je fais des vieux os, faut pas que ça soit à l'hospice. Profite, même si c'est que ça glisse, avec le vent comme complice, 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 avec le vent comme complice. Johnny belle gueule, hey, Johnny ferme la grande gueule. Johnny dans le fond, je sais que t'es seul ma gueule. Johnny be good, good, Johnny be bad. Johnny was a good, 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 good man. Johnny t'es pas non, je sais pas ce qui la dérange. Tu sois poli ou non dans le fond, je vois pas ce que ça change. Johnny pourquoi tu te connes, te renfrons la trône. À grand coup de bonne, hey, Johnny sans vergogne. Johnny savait mais là c'est plus et puis t'as trop bu. Johnny, si tu continues comme ça, ils vont te bouffer tout cru. Johnny aime l'archissa, check pas l'achnoucha, trop l'archuma, d'être la loi pour si peu de maca. Johnny savait pas vraiment ce que je foutais là, mais il y avait du taf alors j'y suis allé, voilà. Johnny, je voulais un peu de crispy et puis rentrer chez moi. Mais le temps et les années on dit ça se passera pas comme ça. Johnny le fossoyeur, poète à ses heures. Johnny le petit menteur et sa sœur qu'elle vend des fleurs. Johnny, tu t'es pas levé ce matin pour aller à la messe. T'as préféré rejoindre Johnny, t'as beau ses sweet caresses. Johnny t'en a déjà trop dit, full croy en vitesse. Avant que le bitume ne te blesse. Johnny c'est lui, Johnny c'est vous, Johnny c'est moi. Faites bien gaffe à vous et m'oubliez pas. J'ai quelques vices mais je suis peace. Bien plus clean que le palais de la justice. Si je fais des vieux os, faut pas que ça soit à l'hospice. Je profite, même si je sais que ça glisse. Avec le vent comme complice, 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 avec le vent comme complice.
C'est vrai, Gérard Rondeau, que beaucoup de gens associent la contemplation de l'eau, surtout en hiver, à une certaine mélancolie. Mais il y a des choses très gaies dans vos rencontres. Et justement, pour terminer sur une note gaie, Vinciane Hautebourg, qui nous a rejoint, bonsoir Vinciane,
bonsoir,
a rencontré un amoureux de l'eau douce, dans qui la vit d'une manière extraordinairement joyeuse.
Voilà, je suis allée sur les bords des canons bretons et l'histoire de celui que j'ai rencontré pour vous tient un peu du conte. Kader Benferhat est né dans une oasis au Sahara et quand il arrive en France par hasard, il découvre les canons bretons. Fasciné par l'eau, il tombe amoureux de ses 248 écluses, de ses rives bordées de châtaigniers ou de chênes hêtres. Depuis 35 ans, Kader se promène le long des canaux de Nantes à Brest. Il étudie leur histoire et il tente de les valoriser pour que les Bretons, souvent happés par les côtes du littoral, se tournent vers les terres et retrouvent la richesse de leurs eaux tranquilles.
Moi, je suis natif du Sahara, du sud, du désert, dans le sud algérien, dans une oasis qui s'appelle l'Aghouat. Et l'Aghouat, L-A-G-H-O-U-A-T, c'est comme l'Arghouat en breton, c'est le pays des bois. Donc de l'Aghouat à l'Arghouat, je me suis dit finalement, je n'ai fait que changer d'oasis du Sahara dans une oasis bretonne, quoi. Donc j'étais habitué à vivre dans mon oasis natale. Et l'eau dans le désert, c'est vraiment la vie. On avait des petites séguias, ce qu'on appelle des séguias, pour arroser la palmeraie. C'était vraiment des petits fossés de la largeur d'un fer de bêche, quoi. Et on avait un droit d'arrosage de notre petite palmeraie. Et puis après, on fermait la vanne et on passait l'eau aux voisins, etc. Et moi, le hasard de la vie estudiantine m'a amené en Bretagne. J'ai rencontré deux étudiants et ils m'amènent sur les bords du canal. Et je me retrouve projeté dans une immensité d'eau. Et je peux vous assurer que quand j'ai vu cette eau-là qui venait de par tous les bouts, je voyais les alignements d'arbres, je voyais l'écume des eaux qui débordait par-dessus les déversoirs. Pour la première fois de ma vie, je voyais une écluse. Je me suis dit, qu'est-ce que ces sarcophages en granit là, qui enferment de l'eau avec des portes, et à quoi ça sert? Et puis à partir de là, ça a été un choc absolument culturel avec l'eau. Une culture du manque d'eau que je vivais dans mon désert avec cette culture du trop d'eau qu'on a en Bretagne, etc. Et à partir de là, je me suis dit, il faut absolument que je m'interroge sur l'histoire de ces ouvrages-là. J'ai commencé à plonger dans les archives. C'est là que j'ai vu, 1530, déjà le premier projet de mise en navigation et on a fait les premières écluses. Les États de Bretagne ont dit qu'il faut absolument qu'on regarde l'inventaire de toutes nos rivières, comment qu'on peut relier la côte, Saint-Malo, Brest, Lorient, etc., Nantes, la Loire, par un système de navigation intérieure. Et j'ai trouvé un truc amusant. L'ingénieur qui écrit, il dit, voilà, j'ai découvert une région où il y avait beaucoup de pommiers, on fabriquait beaucoup de cidre. Et le malheur qu'il dit de ces paysans, c'est qu'à l'approche d'une récolte de pommes, ils avaient encore le cidre de la récolte précédente dans les barriques. Ils vidaient leurs barriques à boire, ils s'enivraient pour vider les barriques et mettre le cidre nouveau dedans. Et il ajoutait, et si on leur faisait un canal avec le transport de marchandises, ils ne se donneraient pas à l'ivresse qui engourdit l'âme, qui engourdit le corps, etc. etc. Vous voyez, tous les éléments étaient utilisés par les ingénieurs pour convaincre. Et puis ce canal, bon, finalement, quand ils ont fini toutes leurs études, ils ont été voir Louis XVI, qui a donné son accord pour qu'on le fasse. Et puis, bon, la révolution est arrivée, on a arrêté tous les travaux, toutes les études. Et puis l'Empire s'établit avec Napoléon. Et lui, Napoléon, avec ses conquêtes et le développement de son empire, s'est fait des ennemis. Et donc il y a eu le blocus continental avec les Anglais. Et Napoléon a dit, il faut absolument qu'on remette en route la construction de ces canaux pour ne pas être embêté par les Anglais, quoi. Et qu'on puisse se défendre et avoir des arsenaux approvisionnés, etc. C'est qu'on a construit ce canal pour se préserver des Anglais qui nous attaquaient sur la mer d'Iroise et sur la Manche. Et aujourd'hui, on a construit un tunnel sous la Manche pour aller les voir. Voilà l'écluse ici.
L'écluse de l'Estitut.
L'Estitut. Et voilà notre éclusière.
Simon Ferrat, ça va?
Ça va?
Oui, ça va, depuis la dernière fois?
Oui. Ben moi, je suis fille d'éclusière, donc vous voyez, ça remonte à... J'avais 8 ans. On travaille l'hiver, on fait de la peinture, on fait de l'élagage, donc du nettoyage de berges. Ça me permet de travailler dehors. Moi, j'adore ça. Hein. J'ai dit, quand je partirai, j'ai du mal. D'ailleurs, on m'a proposé de partir à la retraite. J'ai du mal à partir. C'est une présence, l'eau, c'est reposant. Et je pense qu'il y en a beaucoup d'autres, on en reparle avec des anciennes, c'est pareil. Quand ça passe, quand il n'y a plus d'eau, en fait, que c'est en contrebas, que ça ne passe plus en fait, d'un bief dans l'autre, oh, on dit c'est vide, c'est trop silencieux. Ça nous manque, ce bruit. Enfin, moi, ça me manque toujours. Ah oui, j'aurais du mal à partir, hein, mais bon, quand faudra partir, il faudra partir, il faudra laisser la place aux jeunes.
Voilà, ça c'est...
Ça, c'est la manivelle. On fait de la clé qui est notre outil, premier outil de travail, puisque si on ne l'a pas, on ne peut pas manœuvrer, faire un éclusage.
Le canal, il fait partie de l'économie du temps libéré. Et il y a des dictons de mon désert natal, les Touaregs, ils disent « Dieu a créé le temps et l'homme a inventé la montre. Dieu a créé l'espace et l'homme a inventé les distances. » Le canal, il est fait pour les gens libérés du temps. Pour la majorité des gens, c'est le patrimoine vertical. Le château qu'on voit, il nous coupe le regard, il est vertical. Les moulins, les cathédrales, c'est de la verticalité. Des fois, il faut avoir l'humilité de baisser un petit peu son regard. On a tellement ébahi de regarder des tours, des châteaux, des cathédrales, et on regarde tout ça. Et si on baisse le regard au fil de l'eau, au ras de la terre, et on voit toutes ces écluses, ces déversoirs, ces portes qui se ferment. Et finalement, que je regarde les canaux de Bourgogne, la Marne, etc., voilà, nous sommes dans l'horizontalité. Il n'y a pas que la verticalité.
Il se promène.
Oui. Il se promène tranquillement, il fait sa petite... C'est le jardin public. Bonjour, madame. Et s'il faut le considérer comme ça.
Merci Vinciane pour cette belle rencontre. Gérard Rondeau. Ce qu'on vient d'entendre, en fait, on le sent très bien dans ces rencontres que vous avez faites sur la Marne. Ça change notre rapport au monde. Ça change le sens du temps. Ça change le regard aussi. Parce que c'est un regard... C'est, humble n'est pas le mot, mais c'est un regard à hauteur d'homme. C'est un regard voilà, qui se promène au même niveau que celui des gens que l'on rencontre sur la rive. Donc on pose un autre regard aussi sur l'histoire passée, sur l'histoire actuelle.
Moi j'aime assez le mot humble, quand Goethe dit qu'il faut avoir un regard humble sur le monde qui nous entoure. Et bien justement ce bateau, et moi j'ai beaucoup aimé ce qu'il disait, on a une vision, alors déjà en péniche, toujours à cette même vitesse, 5 km/h, c'est quelque chose d'extraordinairement reposant. Et à la fois, le paysage change avec ce cadre. D'un seul coup, les paysages se composent dans le cadre. C'est comme si c'était une image éphémère à chaque fois. Et c'est une image éphémère. Et à la fois, quand on regarde de l'avant, on a l'impression d'un seul coup que le monde nous rejoint et que le monde vient à nous. Et cette lenteur, et puis c'est vrai que nous sommes à hauteur d'homme dans les écluses. Quand on entre, d'un seul coup, on parle avec les gens. Quand on est dans le canal, on parle aussi avec tous ceux que nous rencontrons, ou en tous les cas par signe, etc. Et je pense que ça favorise absolument les rencontres. Et que en plus, c'est pas les chemins de Compostelle, la Marne. Hein. C'est pas, il n'y a pas des milliers de personnes le long de la Marne. Et à cette heure, d'internet qui est si formidable que ça, c'est bien aussi d'aller à la rencontre des autres et surtout de prendre le temps d'écouter.
Merci infiniment Gérard Rondeau, c'était un plaisir de se promener avec vous sur la Marne, à côté de la Marne. Allez-y pas trop parce que sinon ça sera invivable, mais allez-y un peu quand même. Merci à vous, je rappelle que ce livre, La Grande Rivière Marne, vient de paraître aux éditions La Nuée Bleue. À demain.